Il est 18h passé de 15 minutes dans le studio Kalangou. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme de Studio Kalangou qui sont diffusés en direct par l'ensemble de nos radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Bienvenue donc à tous dans le forum de la presse de ce vendredi 11 septembre 2020. Dans l'actualité donc de cette semaine qui s'achève, nous reviendrons sur les inondations toujours en cours dans le 5e arrondissement de la ville de Niamey et dans certains départements du Niger. Ensuite, nous parlerons des différentes décisions prises au cours de la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui s'est tenue à Niamey cette semaine. Pour échanger sur ces sujets, nous recevons Issa Madougou, il est journaliste à freelance. Bonsoir Issa.
Bonsoir.
Gare Amadou, journaliste au quotidien La Nation. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et nous attendons d'un moment à l'autre l'arrivée de El Hadj Souleymane Mahamadou, il est journaliste au journal en ligne Niger Inter. À la modération, c'est Nafissa Adam Sirfou. Merci, chers confrères, d'être venus. Depuis fin août, plusieurs régions du Niger sont touchées par les inondations. À Niamey, dans le 5e arrondissement, maisons, rizières et jardins ont été submergés par les eaux du fleuve Niger. À la date du 7 septembre 2020, la situation de ces inondations dressée au plan national par le comité de suivi des inondations se présente comme suit. 46 départements affectés dans 112 communes, soit 670 villages et quartiers. On dénombre 38 099 ménages sinistrés, soit 329 958 personnes sinistrées, 31 960 maisons effondrées et 5 768 hectares de cultures inondées. Et pour l'heure, on a enregistré 51 décès causés par les effondrements des maisons et 14 décès causés par les noyades. Alors, je commence par vous, Issa Madougou. Comment vous analysez ces chiffres, ce bilan?
Oui, moi je pense qu'avec ces chiffres, d'abord au regard de comment on a vu la situation se passer, c'est, on peut dire que on a, les dégâts ont pu être limités. Mm-hmm. Mais quand même, c'est une grosse perte quand on voit 105 personnes qui ont perdu la vie et la vie. Plus de 300 000 personnes sinistrées. Moi, je pense que c'est énorme. Nous ne pouvons que manifester tout notre soutien à toutes ces familles sinistrées. Mais aujourd'hui, l'heure n'est plus de comment savoir comment ça s'est passé ou bien qu'est-ce qu'il y avait eu en amont. C'est le défi majeur, c'est la prise en charge de ces personnes sinistrées. Et comment gérer cette catastrophe sur le long terme. Je salue aujourd'hui tout ce qui est en train d'être fait par le gouvernement. Les bonnes volontés. Et aujourd'hui, cette marque de compassion qu'a manifesté les autorités, surtout le chef de l'État qui s'est rendu à deux fois au niveau de ces sites pour voir et échanger avec les personnes sinistrées. Moi, je pense que ça témoigne aujourd'hui de l'attention particulière que manifeste l'autorité vis-à-vis de nos concitoyens. Au-delà de ça, moi, je pense que on a entendu beaucoup de discours, beaucoup de propositions. Moi, je pense qu'il faut que l'État soit ferme. Prochainement, après ce défi, je pense qu'avec le concours des partenaires, on peut relever le défi de la prise en charge. Mais maintenant, après, il faut que l'État soit ferme dans sa prise de position ou le règlement définitif de cette problématique. Parce qu'il faudrait que, quand on va reloger ces personnes, toutes ces familles, il faut que le relogement soit effectif. Vous savez, déjà c'était des zones à risque. Et vous avez bien entendu, dès avril, quand l'Agrimet, à travers le CILS, avait sorti les prévisions de saisonnières. Déjà, ils ont annoncé qu'il y aura des fortes précipitations, ce qui est dire, synonyme connaissant nos réalités, c'est synonyme de catastrophe. Alors, nous connaissons aussi l'état du fleuve. C'est pour cela, tout à l'heure, je disais, n'essayons pas maintenant encore de chercher les causes ou bien d'accuser qui ce soit. Parce que aujourd'hui, le grand défi, c'est cette prise en charge. Parce que nous avons plusieurs défis. Aujourd'hui, il y a le défi sanitaire qui est là, parce qu'il faut que il faut assurer une santé à ces populations, une prise en charge. Nous sommes dans une période où c'est la période pic de paludisme. Nous connaissons tous les conditions dans lesquelles ces personnes sont en train de vivre aujourd'hui, entassées dans des écoles, d'autres accueillies par des familles volontaires.
Donc,
oui, il y a cette pénurie aussi d'eau qui s'annonce parce qu'il y a la station de pompage qui donne directement sur la rive droite qui a été inondée. Donc, vous voyez, c'est tout ça, c'est le défi qu'il faut essayer en amont. Mais maintenant, sur le long terme, ça, c'est après cette prise en charge. Parce que il faut pas... C'est la nature, on ne paie rien quand la nature... Et aujourd'hui, tout ça, c'est la combinaison de tout, de ce que les gens sont appelés les changements climatiques et dont certains refusent de croire que c'est leur... Les actions humaines qui sont à la base. Et ce n'est pas seulement le Niger, on a vu le Sénégal, on a vu le Soudan, on a vu d'autres pays, la Mauritanie également.
Ils sont également touchés.
La Côte d'Ivoire bien avant nous, le Burkina. Donc on peut dire que c'est vraiment c'est un peu partout l'Afrique qui de subit qui est, qui participe moins au changement climatique qui est en train de subir. Donc c'est un droit aujourd'hui pour la communauté internationale aujourd'hui d'accompagner les pays africains dans l'atténuation des effets néfastes du changement climatique.
Alors comme je vous l'annonçais, chers auditeurs et auditrices, notre troisième invité vient de nous rejoindre. Il s'agit de El Hadj Souleymane Mahamadou, journaliste au journal en ligne Niger Inter. Bonsoir El Hadj Souleymane.
Bonsoir.
Et merci d'être venu. Alors Garé, comme l'a si bien dit Issa, l'heure n'est plus à savoir comment ça s'est passé. L'heure est maintenant à la prise en charge. Êtes-vous de cet avis?
Oui, je pense que je suis de cet avis. Je pense que pour le moment, je crois que les populations sinistrées attendent une bonne prise en charge. Et là, j'ai un coup de gueule quand même à donner. J'estime que l'État doit, sur fonds propres, pouvoir gérer ce genre de catastrophe. On parle de 300 000 sinistrés. Je trouve que ce n'est pas la peine d'amuser la communauté internationale pour qu'elle nous vienne en aide. L'État, sur ses propres moyens, doit prendre en charge ces sinistrés-là. Ça me choque, ça me frustre de voir qu'on tend la main pour prendre en charge 300 000. Je pense qu'on n'est pas encore là. L'État doit faire ce qu'il doit faire pour que ces sinistrés-là soient pris en charge. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mobilise le trésor national, il faut qu'on débloque des fonds pour pouvoir assister ces personnes-là. Vous savez, quand on fait la prise en charge des sinistrés de ce genre, il y a d'abord un travail de profilage qu'il faut faire parce que les sinistrés n'ont pas le même niveau de vie. Vous avez cette situation-là, c'est qu'il y a des gens qui sont démunis, qui sont sinistrés. Il y a des gens aisés dans les maisons inondées qui sont sinistrés. C'est ça la particularité de ces inondations-là. Des gens qui sont à l'aise. Et donc, quand on fait le profil, pour apporter assistance, il faut d'abord faire un bon profilage. Je ne sais pas si on le fait ou si on ne le fait pas. Il faut qu'on sache qu'il y a plusieurs catégories de sinistrés. Il y en a qui sont... Et puis, deuxième chose, cette question d'inondation, en fait, elle est à deux niveaux. Il y a d'abord les pluies abondantes qui ont fait que le fleuve a débordé. Il y a un second problème, les digues qui ont cédé. Et là, on ne peut pas ne pas en parler. On ne peut pas se taire par rapport à cela. Parce que ça veut dire quoi? On a construit des digues qui sont censées être quand même à l'épreuve de toutes sortes d'intempéries.
Protégées.
Bien sûr, protégées. Et on se rend compte que des digues qui ont été construites parfois avec les financements de la communauté internationale, la Banque mondiale et tout, les digues cèdent à la première crue. Ça, ça amène à s'interroger. C'est-à-dire qu'il faut faire, il faut auditer tous les travaux, toutes les infrastructures qui ont été faites dans le cadre de la lutte contre les crues du fleuve Niger et voir quelles sont les sanctions à prendre et puis quelles sont les réparations, quelles sont les erreurs à ne pas commettre. Il faut sanctionner parce que apparemment, dans toute la chaîne, il y a eu quelque part quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est-à-dire qu'entre l'entrepreneur qui fait l'ouvrage, les techniciens qui sont censés attester que l'ouvrage répond aux normes et qui ne font visiblement pas un bon travail et qui donnent le cutis, qui disent « Ok, Et la cérémonie de réception, il y a un problème.
Il y a un problème.
À la première crue du fleuve des digues, construite à des milliards qui cèdent, vraiment, il faut d'abord que l'État tombe. Et il faut ensuite, quand on va reconstruire ces digues-là, revoir le dispositif technique qu'on a l'habitude d'employer pour mettre en place des digues qui peuvent résister, n'est-ce pas, à n'importe quelle sorte d'intempérie.
Merci, Garé. Et justement, la digue de la Mordée a cédé le dimanche dernier, El Hadj Souleymane, aggravant encore la situation. C'est presque du jamais vécu pour les habitants du 5e arrondissement. Comment vous analysez cette situation?
Je pense que les catastrophes naturelles, quand ça arrive, il faut savoir gérer. C'est vrai que aucun pays n'est à l'abri des catastrophes. Mais bon, nous savons notre réalité. Il y a quand même l'action de l'homme, des défaillances dans la gestion du fleuve. Par exemple, le problème d'ensablement, ce n'est pas aujourd'hui. Il y a eu des projets, on a pensé véritablement si on s'était mis comme ça se doit, on pourrait quand même agir dans ce sens. Et malheureusement, le problème reste entier. Et je pense qu'entre autres mesures, si on veut des solutions durables, désensabler le fleuve s'impose. Parce que les experts l'ont expliqué, il y a non seulement donc on a un peu déboisé donc les arbres qui sont censés aussi retenir de l'eau. Et il y a tout cela, en tout cas l'action de l'homme, donc fait
tous
que
ces facteurs contribuent,
absolument. Franchement, ça fait paniquer tout le monde. Quand vous voyez par exemple la menace de que les vies humaines, les populations sont touchées. Mais c'est aussi quand on voit les infrastructures comme le CHU, comme l'université, franchement, il y a de quoi s'inquiéter. C'est-à-dire que franchement, cette année, ça doit être la goutte d'eau qui devrait en tout cas interpeller tout le monde, notamment ceux qui gèrent l'État.
Et même les
concernés. Mais justement, parce qu'en fait, là, ça c'est un autre aspect. C'est-à-dire que là, je pense que avant-hier, il y a un ancien cadre de la retraite qui m'a dit comment on arrive souvent à avoir des mesures énergiques, mais c'est la mise en œuvre qui pose problème avec beaucoup de considérations. Et c'est cela, malheureusement, qui caractérise notre gestion. Souvent, on met en avant vraiment des a priori, des préjugés, alors que le problème est réel. Ce qu'on a vu, franchement, c'est désolant. C'est désolant, ça vient vraiment aggraver une situation quand on considère tous ceux qu'on a comme réfugiés, comme d'autres sinistrés qui sont là, en tout cas, ça vient vraiment augmenter. J'ai vu, j'étais un coup d'œil au plan de riposte du gouvernement. Mais je pense que c'est cela qu'il faut faire. J'ai vu une enveloppe, en tout cas estimation de 47 milliards. Mais c'est vraiment au niveau national. C'est tous les différents cas qui ont été pris en compte. Mais on vient d'apprendre que le Premier ministre va rencontrer ce soir les partenaires techniques et financiers pour donc certainement lancer un appel, leur faire l'état du lieu de la situation et certainement appeler à l'aide. C'est-à-dire que, contrairement à ce que mon confrère Gary vient de dire, cela veut dire que si l'État a suffisamment les moyens pour faire face à cette situation
pas
de 300 000 là,
appel.
Il n'a pas appelé justement. C'est que c'est toujours la même pratique. Parce qu'en réalité, c'est assez délicat.
Effectivement.
Il y a que nous sommes dans un pays où, quoi qu'on dise, tout est prioritaire. Il y a déjà beaucoup de domaines où il faut intervenir. Mais ça c'est venu, et franchement ça est venu de façon délicate. Et c'est pourquoi moi je pense que dans la communication, il faudrait interpeller tout le monde. Non seulement l'État, c'est le premier justement, c'est celui qui doit gérer tout. Mais face quand maintenant on gère une catastrophe, tout le monde, et ce qu'on a, il faut en tout cas saluer, féliciter les Nigériens en tout cas qui ont compris, qui sont sur le terrain en train d'apporter. Qui ne sont, en fait, chacun doit participer selon vraiment sa position. Mais franchement, penser que c'est seulement l'État qui doit faire, c'est vraiment une très mauvaise approche face au problème, franchement.
Alors Issa, comme vous l'avez dit, ce n'est pas que le Niger, plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina Faso qui sont touchés cette année. Selon vous, sur quoi miser concrètement pour y faire face? Parce que c'est presque du jamais vécu cette année.
Non, écoutez, Nafissa, vous savez, tout à l'heure, Suleiman l'a répété, quand la nature se déchaîne, on ne peut que constater avec impuissance les dégâts. Mais aujourd'hui, cette catastrophe intervient aussi, il ne faut pas l'oublier, dans un contexte très difficile pour nos pays. Déjà, vous voyez que
nos pays.
Oui, en termes économiques, nous avons nos pays sont impactés par la COVID-19. Aujourd'hui, vous avez vu même les critères de convergence que nos pays se sont librement donnés dans le cadre de la gestion économique. Ils n'ont pas pu les respecter. C'est pas parce que mais parce que ces pays sont durablement impacté. C'est pas pour quelques mois, 2020 seulement. Ça risquerait d'impacter aussi les années à venir puisque ces pays doivent faire face à des déficits. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout facile pour tous ces pays aujourd'hui de faire face à, par rapport en termes de prise en charge. Ils sont obligés de le faire. Mais tout à l'heure, Gary avait posé une problématique qui mérite vraiment, je suis d'avis, parce que il y a de l'argent qui a été investi dans la gestion et la prévention des risques de catastrophe. Et vous le savez très bien que le Niger est un des pays de la sous-région qui a adhéré au cadre de Sendai dans le cadre de la prévention des risques de catastrophe. Le Niger a même un comité national de gestion des risques de catastrophe. Et nous avons des experts. Le Niger a participé pratiquement à tout le monde. C'est ça qui a fait en sorte que depuis 2012, quand il y a eu ces inondations, le Niger avait fait un bon programme
plan, un plan
pour gérer les catastrophes. Et c'est dans ce cadre que le Niger a bénéficié du prêt de la Banque mondiale dans le cadre, pour le projet de gestion des risques de catastrophes. Mais malheureusement, on a vu aujourd'hui que tous ces milliards engloutis dans ces infrastructures n'ont servi à rien. Ce qui veut dire que la question de Garé a toute sa pertinence et que ça doit interpeller qui de droit. Ces gens-là qui ont dit que ces infrastructures étaient fiables, aptes à être réceptionnés, qui n'ont pas pris en compte les réalités aujourd'hui. Parce que ce n'est pas la hauteur. Il faudrait voir aussi la réalité du fleuve. Il ne suffit pas de faire des digues pour dire « Ok, non, vu la hauteur, ça va. » Non, nous connaissons réellement.
Quand les eaux
des courries, des affluents, des différents affluents, ça revient vers
ça
le fleuve.
Ça
vient non seulement avec de l'eau, du sable et autres déchets. Donc tout cela va encore prendre un autre volume qui fera en sorte que le lit normal ne peut pas le contenir. Et aujourd'hui,
c'est ce qui est le
fleuve en train de reconquérir son lit naturel. Aujourd'hui, ce n'est pas surprenant parce que les anciens, moi je me rappelle une année au début de ma carrière de journaliste, j'avais interviewé Feu Damourizika sur le fleuve Niger. Et façon dont il nous a décrit sur la rive droite là, pratiquement toute l'université, jusqu'au rond-point là, tout c'est dans le fleuve. Ils nous racontaient quand ils étaient enfants, c'est de ce côté sur la rive gauche que les gens vivaient plus. Il n'y a que des petits îlots comme la Morde qui existaient. Mais maintenant, sauf qu'aujourd'hui, ici, à des endroits, c'est qu'il y a l'entêtement de nos compatriotes, il faut le dire.
Justement.
C'est pas parce que les gens veulent les étiqueter ou bien quoi, non. Il y a eu des endroits où on sait que vraiment le risque est là, est visible, même en période de saison pluvieuse, même en période de crue du fleuve, chaque fois ils sont inondés. Mais les gens insistent.
D'accord.
C'est pour cela, moi, tout à l'heure, j'insistais et je vais insister maintenant. Dans la gestion, sur le long terme, il faut que l'État soit vraiment exigeant. Quand ils vont reloger les gens, il ne faudrait pas que les gens reviennent. C'est pour cela, en relogeant, en accordant des parcelles à ces gens, il faut aussi leur faciliter des moyens pour la construction.
Voilà, justement, on en arrivera à ce point. Et suite à l'effondrement de la digue de la Mordée le dimanche dernier, le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey s'est rendu sur place et a annoncé une aide en vivres et la relocalisation dont vous parlez, Issa, des familles sinistrées par les inondations sur des sites sécurisés. Malheureusement, la gestion de ces sinistrés pose toujours problème. Garé, on sait que malgré les bonnes volontés qui leur apportent assistance à ces sinistrés, les produits distribués sont insuffisants, puisque selon des personnes qu'on a eu à interviewer sur le terrain, des personnes non affectées s'inscrivent frauduleusement sur les listes. Selon vous, comment parer vraiment à ce problème-là?
Oui, mais ça, c'est, si les gens qui ne sont pas sinistrés viennent s'incruster, moi je dis c'est avec la complicité des sinistrés. Vous connaissez très bien qui n'est pas sinistré. Si quelqu'un vient, il veut rentrer au niveau de l'école avec habit, ben dites, il faut le dénoncer.
Il faut le dénoncer.
Mais bien sûr, mais il y a la complaisance, vous savez, c'est parfois c'est des familles, des parents, et on dirait que il y a une sorte de tolérance. Les gens, bon, ils acceptent ça. Mm-hmm. Ils savent très bien que c'est pas normal, mais ils acceptent ça parce que celui qui vient là, ce n'est pas sinistré, mais c'est un parent à moi, donc on se tait. Mm-hmm. Donc voilà, il faut arrêter. Il faut donner à celui qui le mérite. Vraiment pour aider les autorités de la ville de Niamey et puis les autorités nationales à venir en aide aux... La tricherie ne peut pas marcher dans ce... Ce n'est pas bon, non seulement pour l'économie de la ville de Niamey et puis pour l'économie du pays. Mm-hmm. Et vraiment. Donc, il faut que... vraiment, des garde-fous, il faut qu'au niveau de chaque école où on a relogé temporairement les sinistrés, qu'on puisse mettre des comités de vigilance qui vont demander aux gens et effectivement de collaborer. Mais vous savez, c'est très compliqué, comme
c'est
je dis,
compliqué,
parce que c'est les mêmes familles donc qui vivent sur le lieu et qui sont là, qui viennent pour pouvoir profiter de comment on appelle ça, de cette aide là. Maintenant, concernant parce que le problème, c'est vrai, on l'a évoqué, mais il y a le problème, c'est vrai, Issa a commencé à l'évoquer, à en parler. Le fait que les gens viennent reconstruire
justement
au même endroit, ça, il faut que ça s'arrête, parce que en réalité, il y en a, c'est pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, il y en a à qui l'État a octroyé des moyens pour partir reconstruire. On leur a même donné des sites, ils sont revenus, ils ont reconstruit. Mais là où je condamne l'État, c'est que normalement on doit prendre des dispositions pour que les gens ne reviennent pas. Qu'est-ce que j'avais dit une fois, je me rappelle, sur un débat sur Kalangou l'année passée, je crois, j'avais évoqué le fait qu'il fallait mettre en place des brigades qui vont circuler, qui vont empêcher, parce qu'on ne construit pas une maison en une journée. Est-ce que vous comprenez? Les mêmes gens qui reviennent pour reconstruire, ça prend du temps. Quelqu'un me dit, ah oui, un maire, qu'un journaliste avait interrogé, il dit, oui, il dit, pourquoi vous les laissez reconstruire? Il dit, vous savez, ce sont nos militants, c'est eux qui votent.
Donc c'est au vu aussi.
Mais donc, et comme c'est eux qui votent, on n'aime pas les frustrer. J'ai dit, mais là, il y a 65 morts là. Il y a 51 personnes qui les maisons se sont effondrées et il y a 14 noyades. J'ai dit, mais ça, c'est grave. C'est-à-dire que s'il fallait, tout simplement pour des raisons politiques, vous ne pouvez pas parler aux gens, c'est très grave. Vous mettez leur vie en danger. Donc il faut... Je crois que le président Issoufou a donné l'assurance que cette fois-ci, des mesures énergiques seront prises pour que les gens ne viennent pas reconstruire.
On l'espère bien.
Ce qu'Issa dit est vrai. Mais alors, maintenant, on se rend compte que même l'université est tel le lit du fleuve, en fait, en réalité. Bon, on ne peut pas déplacer l'université.
Et malheureusement, la rentrée n'a pas pu être
On ne peut pas déplacer l'université, on ne peut pas déplacer le CHU. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut déjà que les techniciens travaille à construire. Moi, j'ai dit, au niveau de la corniche même, vous comprenez le goudron qui va vers l'INGS là, pour moi, il devait être fermé. À cet endroit-là, il faut construire une énorme digue.
Parce que c'est carrément.
Mais bien sûr, s'il faut même empiéter sur une partie de l'INGS, une partie de l'université, il faut le faire. Il faut construire une digue énorme pour protéger. C'est ça qu'il faut faire dès maintenant. Fermer la route, là, la route de la corniche, là, il faut la fermer, dégager des habitants, n'est-ce pas? Les mettre un peu dans d'autres endroits. Et puis, maintenant, mettre en place ce projet-là pour que les institutions internationales le financent, pour qu'on puisse cette fois-ci construire dans les normes. Pas de tricherie. Pas de tricherie de la part des techniciens du ministère de l'équipement. Pas de tricherie de la part de l'entrepreneur. Vraiment. Et que moi, je dis, quand l'infrastructure sera réceptionnée, que les techniciens extérieurs au Niger puissent venir attester que le travail a été bien fait. Et là, on peut protéger les jeunes de la rive droite. Mais si on laisse tel que, je vous assure que le même phénomène va avoir lieu. Si le fleuve a reconquis son espace cette année, l'eau se retire, dites-vous qu'un jour, dans 10 ans ou dans 20 ans, le même phénomène va se répéter.
Effectivement. Alors, l'impact de ces inondations, ils sont énormes. À Niamey, la station de production d'eau potable de Yantala a été inondée, occasionnant l'arrêt de la production. Mais cependant, le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en visite sur les lieux, a rassuré que l'alimentation en eau potable de la ville ne sera pas interrompue, puisque la station de Goudel est encore fonctionnelle. Je vous propose d'écouter Cheikh Boutankari. Il est le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique.
particulièrement la station de Yantala, la production même a été arrêtée. Toutes les pompes et les armoires de commande étaient inondées, ce qui a fait que les techniciens de la Seine ont été obligés, en concertation avec la SPEN, d'arrêter la production d'eau au niveau de cette station. C'est une station qui donne 45 000 m³ jour, donc qui permet d'alimenter un peu la population de la rive droite de Niamey. Ensuite, nous avons la station au niveau de la prise d'eau qui est complètement inondée. Là, on n'a même pas pu accéder. Mais heureusement que cette station encore, elle est en fonction, ce qui permet aussi de produire environ 100 à 110 000 m³ jour au niveau de la station de Goudel. Et nous sommes en discussion avec la SPEN et la Seine pour voir dans quelle mesure on va poursuivre l'alimentation en eau potable de la ville d'Amiens sans avoir de rupture.
El Hadj Souleyman, cette station de Goudel qui prendra la relève de la station d'eau potable qui a été inondée, celle de Yantala, pensez-vous qu'elle seule, elle pourra couvrir tous les besoins de la ville, de la population?
Mais hier, j'ai suivi justement le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique, M. Tankari, a été très précis. Il a dit effectivement, en ce qui concerne Harobanda, ils sont en train donc de discuter avec la Seine pour voir comment envisager une sorte de station compacte. C'est-à-dire que c'est à Harobanda que le problème est réel, parce qu'on se rend compte de l'autre côté, en tout cas, il y a moins de problèmes. La pression peut baisser, mais il n'y a pas de rupture totale de l'eau comme à Harobanda où depuis 3 ou 4 jours. Et malheureusement, on s'est rendu compte à l'évidence, nous sommes musulmans, mais quand il s'agit de se faire de l'argent, les gens franchement ont des attitudes vraiment dégueulasses. L'eau qu'on vend à 200 francs, au lieu de penser à baisser le prix pour assister vos frères, ils ont augmenté ça. Franchement, je pense que c'est vraiment pas bien, quoi.
Le mais sens bon, de l'humanisme,
franchement, il n'y est plus. Même si on fait du commerce, il y a une question du bon sens. On a vu même avec le Covid, pendant qu'on se préparait à mourir, les gens ont trouvé l'occasion de se faire de l'argent. Bref, c'est l'occasion, ce qui vient d'arriver encore, d'interpeller donc davantage la Seine, ses capacités, en tout cas, à donner de l'eau. Parce que ce qui était curieux, on comprend justement. Il faut traiter cette eau, il faut beaucoup de moyens, donc nous le comprenons. Mais en termes de capacité, la ville de Niamey est en train de grandir. Donc il va falloir, s'il faut investir. Dans tous les cas, on le sait, c'était une société privatisée, donc ceux qui la gèrent. Il faut aussi offrir aux Nigériens pour leur argent.
Oui, comme vous l'avez dit déjà, qu'on assiste à une hausse du prix du sachet même d'eau. Pendant cette situation, selon vous, quelles pourraient être les autres conséquences si la situation persiste?
Non, franchement, en ce qui concerne l'eau au niveau des sinistrés, il n'y a pas d'autre solution. Et l'État devrait, en tout cas, ravitailler, en tout cas, créer les moyens. La mairie devrait, en tout cas, mettre des citernes, franchement, pour vraiment donner de l'eau aux gens.
Puisque sur les sites.
Parce qu'en réalité, vous l'avez dit, ces gens-là, aujourd'hui, ils sont dans une sorte de déréliction. Ils n'ont rien, même leurs biens, ils ne sont plus sauvés que ce qui est plus facile à prendre, sauvable. Donc cela veut dire que ces gars-là n'ont même pas les moyens de s'offrir de l'eau. Donc là, il va falloir, en tout cas, faire en sorte qu'il y ait des citernes qui passent régulièrement, en tout cas, où il y a de l'eau à leur portée. Parce qu'aujourd'hui, Issa l'avait évoqué, aujourd'hui, en fait, cette situation-là où elle est inquiétante, elle n'aura pas perduré. C'est que c'est, les conséquences, avec ce pas lui-même, ceux qui sont dans des protections, en tout cas dans des habitations acceptables, les moustiques sont là très, très...
Effectivement.
Ceux qui sont vraiment exposés dans la
nature. Des conséquences dans sanitaires, les salles oui.
Et donc, vous voyez, on voit toutes les conséquences venir. Bientôt, c'est la rentrée scolaire. Bref, moi, je pense qu'en termes d'impact, cela doit interpeller. On a vu justement les hommes politiques commencent à aller sur le terrain, les candidats. En tout cas, ça doit interpeller tout le monde pour qu'effectivement, la gestion du fleuve, le fleuve, la nature nous l'a offert pour nous permettre de bien vivre, de cultiver, en tout cas qu'il puisse contribuer à notre bien-être. Mais ce doit, en tout cas, soit un moyen vraiment pour nous détruire. Mm-hmm. Je pense que là, on est loin de l'objectif, en tout cas. Donc, je pense qu'en réalité, il est question qu'il y ait un bon programme, en tout cas, pour en tout cas, asseoir un programme mm-hmm. pour des solutions durables.
Alors, Issa Madougou, malgré tous ces problèmes qui se posent, comme l'a dit Elhaj Souleymane, certaines personnes profitent de la situation pour renchérir leurs produits et autres services. Selon vous, le sens de l'humanisme aurait-il disparu?
Non, non, pas du tout. Aujourd'hui, ce qui se passe à Rubanda, à la rive droite, moi, je pense que c'est extraordinaire. Mm. Ça veut dire que même si un temps, on avait des inquiétudes par rapport à la mise en berne de nos valeurs, je peux dire que ça, il y a vraiment des choses extraordinaires qui sont en train de se passer. Mm. Mais il faudrait qu'au-delà de ça, qu'on puisse nous-mêmes créer des stratégies. Par exemple, quand je vous parlais tout à l'heure de... que le Niger était l'un des premiers pays de la sous-région à avoir ratifié le protocole de Sendai en matière de gestion des risques de catastrophes. Il y a aussi la question du relèvement. Mmh. Parce que c'est ça, quand il y a des catastrophes, c'est l'après-catastrophe qu'il faudrait gérer, évidemment. Il faut gérer la catastrophe, il faut gérer la période de crise, il faut gérer le relèvement. Mmh. Aujourd'hui, ces questions d'inondation touchent l'ensemble du pays. Mmh. Et chaque partie du Niger a ses propres réalités. Aujourd'hui, si la rive droite, c'est l'eau du fleuve qui est à la base, qui peut être aussi récupérée. Dans d'autres coins, ce n'était pas la même chose, c'est des eaux de pluie. Et là-bas, qu'est-ce qui manque le plus? Voilà où l'urbanisation devrait être bien pensée.
Voilà.
Parce qu'il y a des régions où on a constaté des villes où il y a eu des inondations, parce qu'il n'y avait pas de plan d'urbanisation. Il n'y a aucune stratégie mise en place pour urbaniser la localité. Mm-hmm. Et c'est ça qui était à la base de ça. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est un défi de développement également qui est imposé à nos pays. Aujourd'hui, c'est vrai, tout est priorité, mais quand même, il faut le minimum. Mm-hmm. Le cadre de vie devrait être amélioré pour sécuriser les gens et leurs biens. Mm-hmm. Maintenant, pour finir, moi, je pense qu'il faudrait que l'État songe également à un fonds de solidarité pour accompagner toutes ces familles.
D'accord. Un autre chapitre, la 57e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest s'est tenue à Niamey du 7 au 8 septembre dernier. À la fin de ce sommet, les chefs d'État et de gouvernement ont annoncé le maintien des sanctions prises contre le Mali suite au coup d'État du 18 août 2020. Le sommet a particulièrement demandé la désignation parmi les civils d'un président et d'un premier ministre au plus tard le 15 septembre 2020 pour assurer une transition politique d'une durée de 12 mois dans ce pays. Je vous propose un extrait du communiqué final lu par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassi-Brou.
S'agissant de la situation au Mali, la conférence réaffirme sa détermination à assurer un retour rapide à l'ordre constitutionnel dans ce pays, avec une transition politique dirigée par un président et un premier ministre civil pour une période de 12 mois. La conférence maintient les décisions prises lors de son sommet extraordinaire tenu le 28 août 2020 et prend note des consultations en cours entre les acteurs maliens initiées par le Conseil national du salut du peuple. Le président de la transition et le premier ministre de la transition ou de civils devront être désignés au plus tard le 15 septembre 2020.
Alors, Gary Amadou, toutes ces décisions prises par les chefs d'État lors de ce sommet, pensez-vous qu'elles seront respectées?
En tout cas, la junte a intérêt à regarder, à porter un œil regardant sur les recommandations du sommet de Niamey, parce que la CEDEAO quand même a mis la barre très haute, et je pense que c'est dans l'intérêt du peuple malien. C'est-à-dire, il faut que les militaires se retirent, qu'ils partent faire ce pour quoi on les a formés, c'est-à-dire faire la guerre. Le nord, le centre, il y a des attaques sporadiques. Je crois que même hier, 4 soldats maliens ont été tués. Leur rôle, leur mission n'est pas de rester dans la capitale. Pour... Non, non. Allez-y faire la guerre, laissez les civils gérer. Je crois que c'est ça le message de la CEDEAO. Et j'espère qu'ils seront assez intelligents pour comprendre, parce qu'il ne faut pas minimiser l'impact des sanctions. Moi, je l'ai toujours dit, les militaires du CNSP n'ont pas fait le coup d'État pour les civils. Non. C'était des militaires opportunistes, je l'ai dit ici sur ce plateau, opportunistes qui étaient là aux aguets et qui ont voulu profiter d'une occasion. La preuve, c'est leur transition grotesque de 3 ans qu'ils ont proposé à la communauté internationale. Mm-hmm. C'est scandaleux, 3 ans, pour une junte militaire. Mm-hmm. Et surtout que, non seulement ils ont maintenu la constitution, mm-hmm. ils ont maintenu la cour constitutionnelle. Pourquoi vouloir faire 3 ans? Non, vous n'en avez pas besoin. Mm-hmm. Vous avez dit que vous avez interrompu un processus. Eh bien, la CEDEAO a été gentille. Mm-hmm. Moi, j'ai trouvé la CEDEAO a été gentille. La CEDEAO a dit 1 an, on vous donne 1 an.
1 an, oui.
Mais pour moi, même si moi, ça, il peut faire, puisque c'est la même constitution, mm-hmm. il suffit tout simplement de mettre mettre les bouchées doubles mm-hmm. pour qu'on organise une nouvelle élection. La CEDEAO a compris. Et
très
surtout, oui, la CEDEAO a compris. Et surtout, il fallait donner un message très ferme mm-hmm. à tous ceux qui sont des aventuriers, qui sont dans les armées mm-hmm. d'Afrique de l'Ouest, là, qui sont tentés de rééditer l'expérience malienne.
Et au Mali, même les avis divergent. Certains sont pour la gestion de l'armée, certains non. Selon vous, quelle est vraiment la vraie solution pour le Mali? Elhadj Souleymane.
Moi, en suivant l'actualité, je vais dire actuellement, il faut aider le Mali à surmonter du danger. Le premier, c'est le populisme et le second, c'est la tentation du pouvoir. Mmh. Sur le premier, le discours des Maliens, militaires comme civils, donc les lutteurs de MRFP,
oui.
Donc c'est de considérer que la CEDEAO, c'est une structure réactionnaire d'un syndicat du chef d'État. Voilà, voilà, on n'écoute pas. Mmh. Donc, le Malien a fait sa lutte souveraine. Ils ont acquis, donc, ils ont dégagé un pouvoir corrompu. Mmh. Soit. Donc, dans cette logique-là, ils n'ont pas tendance à écouter les autres.
Mmh.
Et ça, c'est ça, justement, le discours
le
populiste.
Discours, c'est ça.
Ce discours souverainiste, nous sommes souverains, un peuple souverain, voilà, voilà. Mm-hmm. Nous sommes, on rappelle même que nous sommes les plus courageux, voilà. Et le deuxième danger, c'est la tentation, j'ai dit, du pouvoir. Ce matin, mm-hmm. vous avez peut-être vu ce qu'est la vidéo, où parmi les délégués, certains, tout le monde ne peut pas venir mm-hmm. à un forum.
Mm-hmm.
Donc, ceux qui n'ont pas eu de badge. Vous avez vu ce que ça a fait, la police a intervenu.
Mm-hmm.
Un pays au bord du gouffre, on est en train de se chamailler, on est en train d'oublier l'essentiel.
Oui.
Et donc moi, je pense que véritablement, heureusement, si ça se confirme, on a dit que l'imam dit que donc, l'autorité morale
mm-hmm.
Du fameux mouvement M5, il demande justement à ce qu'on écoute la CEDEAO, parce que dans la réalité, les mesures déjà de la CEDEAO ont un impact assez dur sur, malheureusement, les populations.
Effectivement.
Donc, si la CEDEAO a maintenu ses mesures,
mm-hmm.
il y a non seulement, même s'il y a beaucoup de choses à redire sur la gestion de la CEDEAO, c'est-à-dire que la pratique, le fait que la CEDEAO n'arrive pas à asseoir la bonne gouvernance,
mm-hmm.
mais ça ne justifie pas justement le fait que il est important, et je pense que ça, en réalité, la vraie vision de la communauté, c'est que le coup d'État s'est désormais révolu.
Mm-hmm.
Le cas malien, bien avant le Mali, a eu d'autres tentatives. On se rend compte que de plus, c'est difficile de faire un coup d'État
mm-hmm.
et pouvoir gérer le pouvoir. En réalité, moi, je pense que c'est important. D'abord, il y a une consultation nationale.
Mm-hmm.
Je pense qu'ils vont faire des résolutions pour vraiment donner une seule des fils conducteurs
mm-hmm.
sur ce qu'on doit faire au Mali, créer les conditions, donc, quel que soit le pouvoir qu'il a, en tout cas pour la gouvernance, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. La corruption, en tout cas, créer des conditions.
Mm-hmm.
Mais il me paraît évident que le Mali ne peut pas vivre en autarcie. Ils doivent écouter le monde. Ils doivent, en tout cas, permettre aux gens de les aider parce que tout simplement, la situation de ce pays-là, elle est très, très critique.
Mmh.
Lorsqu'un pays ne contrôle pas les deux tiers de son territoire, lorsque un pays est là, il existe parce qu'il y a des armées, en tout cas internationales, qui sont là vraiment sur son
mmh.
territoire,
mmh.
il n'y a pas vraiment à s'amuser.
D'accord. Issa Madougou, vous, de votre côté, quelle lecture faites-vous de toute cette situation?
Moi, je pense que
rapidement.
Oui, la situation au Mali, vraiment, elle est en train de devenir annonce une situation tout à fait explosive, parce que quand je vois même dans les constatations, il y a une partie qui devrait être là, savoir la coordination des mouvements de l'Azawad qui boycotte, c'est pour parler. Je pense qu'il y a quelque chose qu'il faudrait vraiment être très prudent par rapport à ce qui est en train de se passer. Et la CEDEAO, moi, je ne condamne pas la CEDEAO. La CEDEAO est dans ses droits. On peut dire qu'ils peuvent se tromper, ce sont des humains. Mais le seul point là où, moi, c'est les sanctions seulement que je n'ai pas voulu, parce que ça, vraiment, il faudrait les alléger, parce que c'est contre le peuple malien. Maintenant, demander, il y a un problème qui est là au Mali, que les gens ne font pas perdre de vue. C'est que les Maliens, la population malienne n'a plus confiance à cette classe politique. Allez, alors, qui est ce temps providentiel qu'il faut pour diriger la transition? Parce que ceux-là du M5, là, les Shogol Maïga, qui ont même carotté des sous, qui ont été complices de la gestion catastrophique de IBK, eux, ils veulent aussi se positionner dans la gestion de la transition. Pourtant, les Maliens n'en veulent pas. C'est ça aujourd'hui. Moi, je pense que la posture même du Conseil national de salut pour le peuple, le CNP de Guatemala, doit revoir sa position.
Oui, et donc, pour finir, on sait qu'au terme des travaux de ce sommet, le président nigérien Issoufou Mahamadou, président en exercice de cette organisation, a passé le témoin à son homologue ghanéen, le président Nana Akufo-Addo, qui est élu par le sommet pour un mandat de 1 an. Selon vous, Issa Madougou, quels sont les changements qu'il peut apporter rapidement?
Donc, Nana Akufo, c'est déjà, il est président d'un pays anglophone, mais c'est un francophone attitré. C'est un avocat au barreau de Paris. Mais moi, je pense que la présence nigérienne, vraiment, moi je salue le président Issoufou. Loin de ce que certains peuvent penser. Non, c'est un bilan, ça se fait parce que c'est dans des conditions très très difficiles. Sécurité, Covid, récession économique. Moi je pense que tous ces dossiers-là, aujourd'hui, on a pu les gérer. Et vraiment, la tâche sera encore lourde pour le président.
D'accord. Alors, Gare, de votre côté, selon vous, quelle pourrait être la vision du nouveau président par rapport à la monnaie unique de la CEDEAO qui n'est toujours pas effectuée?
Oui, la monnaie unique, je crois que ça a été reporté parce que c'était l'horizon 2020, mais à cause du Covid, je crois qu'il y a beaucoup d'échéances qui vont être reportées sur le plan planétaire. Mais je pense que le grand défi du nouveau président, c'est vraiment la gestion de cette affaire du Mali.
Du Mali, justement.
Oui, parce que vous savez, là où cette affaire du Mali est trompeuse, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le peuple ne veut pas de la classe politique. Non. Mais qui sont ceux qui sont en train de tenir ce discours-là? C'est les Shogal Maïga et consorts-là. En réalité, on ne voulait pas du régime de IBK. On veut débarrasser le Mali du régime de IBK pour installer un régime. Donc, le discours qu'on est en train de servir aux gens-là, soit disant que non, le M5-RFP ne veut pas de la classe politique. Non, mais le M5-RFP est phagocyté par les hommes politiques. Ce sont les Shogal Maïga et consorts-là. Et les partis de Cissé, de Soumaïla Cissé, ce sont ces gens-là qui sont en train de tenir ce discours-là, alors qu'ils veulent tout simplement installer leur
donc
système.
Donc le défi est énorme.
Le défi est énorme.
Souleymane, êtes-vous d'avis?
Je pense qu'il y a un discours quand même dans nos pays, pas seulement au Mali, qui consiste à considérer que la classe politique actuelle au Niger, c'est valable. Vous entendez ce discours-là à travers les réseaux sociaux qu'il faut balayer toute la classe politique de la conférence nationale. Ben, ça vaut ce que ça vaut, mais je pense que aussi les changements de génération, ce n'est pas un truc spontané. Ça obéit à des cycles. Vous allez voir dans 10-15 ans, les hommes politiques, aujourd'hui, certains, les plus anciens, c'est la nature qui va les faire partir. Donc, en réalité, ce n'est pas comme ça. Parce que moi, de mon point de vue, dans la réalité, je ne suis pas sûr que les jeunes qui tiennent ce discours-là ne sont pas plus corrompus que certains anciens. Donc, bref, on souhaite vraiment que les Maliens puissent véritablement s'entendre sur l'essentiel et se dire que les défis qu'ils attendent sont plus importants que le petit c'est vraiment une discussion de mettre qui, X ou Y, à la tête de l'État.
Merci à vous, merci chers confrères. Et c'est ici que se referme le forum de la presse de ce vendredi 11 septembre. Nous étions en compagnie de Issa Madougou, journaliste freelance, Gare Mamadou, journaliste du quotidien La Nation, et El Hadj Souleymane du journal en ligne Niger Inter. Bon, merci à vous. Nos remerciements également à l'endroit de nos auditeurs et auditrices. N'oubliez pas le programme Jeunes, c'est samedi et dimanche dès 17h. 14h avec l'actu des jeunes en 5 langues, suivi de tous à la FADA et à partir de 18h15 samedi, le forum en langue Hausa sur les moyens affectés de l'évacuation des eaux de ruissellement de la commune urbaine d'Agadez et dimanche à la même heure, le forum en langue Zarma sur l'interdiction de circulation des motos de la commune de Baleyara. C'était le fils Adam Sirfo à la modération, c'est Nisaka à la technique et Mustapha Iba à la régie vidéo.